France Inter.
Ce qui compte pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de ne rien dire.
Un petit drapeau ukrainien sur le revers de la veste de Catherine Deneuve rappelait l'actualité brûlante à cette cérémonie des Césars. Une soirée qui a sacré et la pure fiction chantée et la triste réalité. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Le cinéma a changé ma vie, a dit l'un, Jean-Pascal Zadi, tandis qu'il est arrivé quand je n'avais plus de vie, a dit l'autre, Abou Sangaré. Le cinéma qui, hier soir à l'Olympia, a récompensé 7 fois Emilia Pérez, Jacques Audiard, et donner 4 statuettes à l'histoire de Souleymane de Boris Lochkine devant les favoris Monte Cristo et le petit truc en plus, champion du box-office, ne reviendront sur cette cérémonie. Et pendant ce temps-là, le cinéma continue, et notamment avec ce récit d'une passion sur fond d'un monde du travail brutal. Bonjour Sylvain Delcoux.
Bonjour.
Dans votre film Le Système Victoria, David Damien Bonnard, un directeur de travaux, il ne vit que dans l'urgence et va se retrouver pris au piège d'un système qui le dépasse. Cette femme qu'il rencontre, des RH, dans un grand groupe, c'est vous. Bonjour Jeanne Balibar.
Bonjour.
Qui d'autre pour incarner cet être libre, cette femme intelligente, mystérieuse et dangereuse, le système Victoria, sur nos écrans mercredi prochain, enfin les sorties de la semaine, avec entre autres Deneuve au Japon ou l'ex-James Bond au Mexique. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
J'aime beaucoup le cinéma. Il y a beaucoup de femmes à la mise en scène. Et de nos jours, il y a encore plus de femmes que j'aime et que j'admire. Et je pense que nous allons passer une joyeuse soirée. Je déclare ouverte la 50e cérémonie des Césars et je la dédie à l'Ukraine.
50 ans plus tôt, c'était déjà elle qui ouvrait le bal. Catherine Deneuve, sobre, impériale, et son hommage à l'Ukraine quelques minutes après ce terrible échange humiliant de Trump vers Zelensky. La suite, plus de 3 heures de cérémonie, démarre en fanfare. Seule récompense pour le film d'Emmanuel Courcol qui n'a rien obtenu, tout comme un petit truc en plus et l'un de nos préférés, Laurent, Miséricorde d'Alain Guiraudy. Les deux gagnants restent Emilia Pérez de Jacques Audiard, 7 statuettes et 4 pour l'histoire de Souleymane, dont une pour son interprète Abou Sangaré.
De 2017 jusqu'en avril 2023, j'avais presque plus de vie. J'avais plus de vie. Je vivais parmi les gens comme ça, juste voilà, être parmi eux. Je ne me considérais pas maintenant comme un être humain. Puisque vous savez, depuis que j'ai traversé la mer Méditerranée jusqu'en avril 2023, j'ai connu tout. La misère, tout ce qui est la misère, tout ce qui est l'être humain, le bon comme le mauvais, j'ai connu. Et sur resté dans toutes ces misères, un jour, je vois 2 personnes qui se présentent en pleine journée en me disant que, écoute, Sangaré, on a une proposition de travail pour vous. Si ça vous plaît, on va faire ça ensemble. Merci à vous pour votre intégration au sein de l'humanité.
Abou Sangaré et une autre inconnue, Maïwenn Barthélémy, l'héroïne de 20 dieux, sacrée révélation, plus un César du meilleur premier film. D'autres jolies surprises avec Afsia Herzi à l'affiche de Borgo et une prime à la gentillesse pour Karim Leclou dans le roman de Jim des frères Larieux. Et la politique dans tout ça, eh bien, on retiendra les mots de Gilles Perret, l'auteur de La ferme des Bertrands.
Ce César m'incite à continuer dans la voie que j'essaie de tracer, c'est essayer de rendre visibles les invisibles. Dans un pays où on tend plus facilement le micro à des milliardaires qui se plaignent plutôt qu'aux 10 millions de pauvres. Dans un pays où les dirigeants, pour rester en place et pour ne pas contrarier les puissants, préfèrent s'allier à l'extrême droite fasciste plutôt que poser la question. Plutôt que de poser la question du partage des richesses et de la protection de la planète. Attention, méfions-nous, cette histoire on la connaît déjà, cette petite musique mortifère on l'a déjà entendue, c'était celle des années 30, où déjà à l'époque, on disait plutôt Hitler que le Front Populaire. Ça va vite, méfions-nous. Et nous, gens du cinéma, je crois que ce serait bien d'y mettre un peu les pieds. Parce que... J'ai trop souvent l'impression que dans le monde du cinéma, on regarde parfois trop souvent ailleurs et que la maison brûle et on filme ailleurs. Voilà. Je vous remercie. À la fin, c'est quand même nous qu'on va gagner. Merci. Merci à vous.
Sylvain Desclous, vous voyez hocher de la tête parce que vous aussi, votre cinéma, il est dans le réel, dans la politique et dans la brutalité de ce monde.
Oui, quand j'écoute... Alors moi, je n'ai pas pu regarder la cérémonie hier, mais quand j'écoute les mots de Gilles Perret, je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'il ramène le monde dans le cinéma, que de rappeler qu'on n'est pas à part et qu'on a les deux pieds dans le réel, pour ne pas dire plus, et les deux mains dans la mouise, dans la glaise. Et que voilà, il faut en tenir compte et que quand on voit ce qui s'est passé hier soir aux alentours de 19h...
Cette affreuse rencontre.
Ouais. C'est, ça donne envie de faire des films, de dire ce qu'on pense, de défendre ce à quoi on croit et de garder les yeux grands ouverts.
Et vous, Jeanne Balibar, vous avez suivi un peu la cérémonie ?
Un peu, oui, je l'ai prise en route. J'ai trouvé que la musique arrivait très très tôt pendant la prise de parole de Gilles Perret.
Oui.
Embêtant.
C'est un peu embêtant, ouais. Oui. Vous avez remarqué ?
Mais on l'a quand même passé le son et ses paroles sont ressorties ce matin.
Oui, c'est important, je pense. Est-ce qu'il y a des moyens techniques d'enlever cette musique quand on repasse le son ?
On va voir les pistes.
Je trouve que ça sera important. Et moi qui ai été sur cette scène... Oui. Je sais que...
Elle est venue quand vous avez remercié pour votre César en 2018.
Quand j'ai remercié pour mon César, la musique est venue tard et c'était pas... je veux dire, c'était normal qu'elle vienne parce que j'ai parlé vraiment très longtemps.
Ouais, mais si joliment.
Voilà. En revanche, quand j'ai fait la chanson du cochon en 2010, à la cérémonie des Césars, pour dire que le cinéma était un port, P-O-R-T, un havre de bonheur, et en même temps une porcherie, P-O-R-C. Je suis assez fière d'avoir fait ça en 2010, 7 ans avant MeToo.
Ouais.
J'étais venue avec un ingénieur du son du rock'n'roll, et je l'avais fait bien exprès parce que c'est des gens qui résistent à tout. Et je sais qu'au bout de 30 secondes, Canal Plus avait essayé de me faire taire et demandait à mon ingénieur du son de me débrancher mon micro. Donc, c'est-à-dire de me mettre dans la situation d'être sur scène, à faire dans le vide. Vous imaginez l'humiliation que ça aurait été par rapport à ce numéro que j'avais prévu et qui demandait à être long pour être vraiment drôle et pas juste une amusade qui sans conséquence. Et c'est vrai qu'en entendant hier ces violons qui se sont déclenchés très très tôt sur le discours de Gilles Perret, j'ai repensé à ces pratiques qui consistent à faire taire, à exposer les gens à se retrouver à devoir parler par-dessus ou sans être retranscrit. Et ce sont des pratiques qu'on observe dans beaucoup d'endroits et beaucoup de domaines en ce moment. Et j'ai aussi une question à poser à propos de cette cérémonie, parce qu'on entend depuis plus de 15 jours des rumeurs sur des vagues énormes de financement, de licenciement à Canal+.
Ouais.
212 postes supprimés, énormément de choses externalisées, des engagements venus de C8 et tout ça. Et donc, alors vous qui êtes journaliste, qu'est-ce que vous savez sur cette question ? Parce que j'ai été étonnée que personne n'en parle hier soir à la cérémonie. Et moi-même, j'ai pas d'informations, vous pouvez m'en donner ?
Non, comme ça, non, il y a eu une petite allusion.
Non, vous ne les connaissez pas
Pas assez, en plus, pour en parler savamment. Mais vous avez raison sur le fond. C'est-à-dire que la situation devient inquiétante et il faudrait prendre le tour par les cornes. Mais
d'autant
je sens que Sylvain Desclous...
D'autant que c'est le premier producteur du cinéma français, en plus.
Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Parce que c'est le premier producteur, et par exemple, j'ai entendu dire dans une rumeur de couloir que la totalité de la rédaction cinéma avait été mise au pas, qu'il y avait 212 12 licenciements. Mais j'en sais rien, c'est pour ça que je vous demande, à vous qui êtes journaliste.
Alors moi, j'ai pas d'infos. Ce que je sais, c'est que suite à la renégociation de la chronologie des médias, voilà, les décisions d'acquisition de Canal+ ont été suspendues dans l'attente du dénouement des négociations.
Oui, mais il me semble que c'est deux choses différentes. Il y a l'histoire de la... Comment ça s'appelle la chronologie des médias, la négociation avec Disney, etc. Je crois que ça, c'est une chose.
Oui, mais Canal+, on est partie prenante.
Oui, absolument. Mmh. Mais je crois que ce n'est pas la même question que la question d'une énorme vague de licenciements comme il y a pu y avoir à iTélé. Mais vous n'avez pas d'infos à nous donner là-dessus?
Non, je n'ai pas d'infos à vous donner. En revanche, j'ai une question à vous poser. Est-ce que Canal+, a aidé au financement de votre film, Sylvain Desclous?
Oui, absolument. Comme du précédent.
Oui.
Et comme de mon premier. Et comme de la quasi-totalité de beaucoup des films d'auteurs qui se produisent chaque année. Ouais.
On conclut le chapitre César avec un grand éclat de rire de cette soirée avec Franck Dubosc, le César de celui qui ne l'a jamais eu.
Je voudrais remercier tous ceux sans qui je n'aurais pas eu ce César, bien sûr. D'abord, je pense à monsieur Jacques Audiard, qui ne m'a jamais engagé sur un de ses films. Et puis. Ce qui m'a permis, bien sûr, d'avoir toutes mes chances pour ne pas l'avoir. Je pense aussi, bien sûr, aux personnes qui m'entourent toute l'année dans l'ombre, qui préfèrent y rester ce soir. Et puis, je dis souvent que je comprends pourquoi les comédies sont moins récompensées au César, mais je voudrais juste rappeler à l'Académie que j'ai fait des comédies qui n'étaient pas drôles. Voilà. Apparemment, c'est vrai. un mot pour Madame Robert. Je ne sais pas si vous avez l'honneur de me connaître, mais voilà. How can I explain? Comment je pourrais dire? Je traduis. You see George Clooney. You see Pierre Niney. I'm a pill in the middle.
Heureusement qu'il était là. Moi, il me reste un dernier, vraiment, je suis pas contente parce que dans les disparus, on a oublié une immense disparition qui est celle de David Lynch. Rien sur lui à part deux, trois mots de Justine Triet.
Et voilà. Il y a aussi une étrange erreur avec Charles Denner en photo à la place de Philippe Lodenbach où j'ai rêvé.
C'était bien Philippe Lodenbach.
Ah bon, c'est moi qui ai rêvé.
Oui, vous
j'ai eu l'impression que je voyais Charles Denner. Charles Denner
c'était l'extraordinaire Philippe Lodenbach.
Ah voilà.
France Inter, on aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Il y a un contrat, il y a un planning, vous le respectez, c'est tout.
Je voulais juste vous rappeler que...
Je m'en fous que vous en ayez plein les bottes. Je m'en fous que vous fassiez des heures sup. Moi aussi, j'en ai plein les bottes. Et moi aussi, je fais des heures sup. Et moi aussi, j'ai envie de le terminer, ce putain de chantier.
Monsieur Garrel, je vous demande pas de résoudre les problèmes à ma place, ni de changer quoi que ce soit à ce qui a été décidé. Je vous explique juste pourquoi on est en retard.
Vous êtes architecte? Vous êtes promoteur? Non plus? Alors voilà, j'ai pas besoin que vous m'expliquiez quoi que ce soit. J'ai besoin que vous et votre équipe fassiez ce que vous vous êtes engagé à faire et accessoirement, ce pourquoi je vous paye. C'est-à-dire, terminer le plus rapidement possible cette tour. Est-ce qu'on est d'accord ?
Cette tour en construction à la Défense, pilier et même troisième personnage de ce film, le système Victoria, un chantier qui obsède David, c'est Damien Bonnard, architecte déclassé, dépassé par les délais et qui va rencontrer en pleine tourmente Victoria, DRH d'une multinationale, c'est vous Jeanne Balibar, séduit par son audace et sa liberté. Un film adapté d'un livre, le système Victoria, d'Éric Reinhardt, découvert à sa sortie, Sylvain Desclous, en 2011. À l'époque, vous êtes organisateur de séminaires. Vous vivez ce que décrit le livre, c'est-à-dire...
C'est-à-dire qu'en 2011, quand je termine la dernière page du livre d'Éric, mon métier, mon quotidien, mon travail alimentaire, c'est d'organiser pour des grandes boîtes du CAC 40 des séminaires de travail, et ce, très souvent, soit à la Défense, soit dans des hôtels de luxe. Et en parallèle de ça, j'essaie de faire avancer mes projets de court-métrage et je rêve qu'un jour, peut-être, je ferai un long-métrage. Donc, quand je termine le bouquin, je m'identifie évidemment tout de suite à David. qui est un espèce d'albatros, un peu échoué dans un monde qui n'est pas le sien, qui est trop dur pour lui. Et je fais évidemment un petit message à Eric Reynard sur Facebook, où je lui dis toute mon admiration, et je lui dis que j'espère qu'un jour nos chemins se recroiseront.
14 ans plus tard, le temps de réaliser 3 courts, un moyen et 3 longs, le thème ne vous a pas quitté. Sur fond de capitalisme pur et dur, la rencontre de deux classes sociales antagonistes, qui était un peu le thème de votre précédent film de Grandes Espérances.
Ah ouais, mais c'est marrant parce que je me le suis jamais formulé comme ça. En tout cas, je l'ai jamais identifié comme ayant une parenté aussi évidente avec le précédent. Parce que ce qui m'a vraiment attrapé avec le livre et donné très envie de le transformer en film, c'est deux choses. C'est d'abord ce chantier, cette tour, quelque chose qu'on voit pas souvent au cinéma.
Non. Le film commence avec ça. La vision est absolument géniale. Le premier plan du film. Ouais. L'entrée dans le film est fascinante.
Et rien que de me dire que j'allais pouvoir tourner dans une tour, filmer le bruit, la ferraille, la poussière, les ouvriers, ça m'excitait beaucoup. Et puis pouvoir articuler autour de ça une histoire d'amour que là aussi j'avais pas souvent lu ni vu.
Non, je disais parce que par rapport au rôle de Rebecca Marder, qui a le désir de se réaliser, d'obtenir le respect aussi de ses supérieurs, ce qui est un peu le cas du personnage de Damien Bonnard, incarné par Damien Bonnard.
Ouais, c'est vrai que ces deux personnages ont ça en commun, d'abord d'être un peu seuls, hein, de se trouver à un endroit dont ils sont pas forcément satisfaits et d'avoir des hautes ambitions, qui sont pas des ambitions, on va dire, égoïstes, mais qui sont des sincères ambitions de se mettre au service de la communauté et des autres.
Et qui, on le verra plus tard, vont se transformer en même temps que le système, donc voilà, passer de l'agneau au loup. La rencontre avec cette femme, Victoria, va peut-être accélérer sa détermination. Premier face-à-face dans un restaurant à Bruxelles.
Vous me dites si je me trompe. Vous avez monté votre agence tout seul ou avec un copain en sortant de l'école d'archi. Vous avez pris des bureaux, vous avez passé des dizaines de concours, mais sans réseau c'est compliqué, vous avez galéré. Et comme vous ne versiez pas de salaire et qu'il fallait payer le loyer, ça a été de plus en plus dur. Alors vous avez commencé à faire des projets à droite, à gauche, mais du coup vous avez eu moins de temps pour vos projets à vous, et ainsi de suite, jusqu'au moment où vous n'arrivez plus à faire face et il faut remplir les caisses. Et c'est là qu'on vous propose le poste de directeur de travaux. Et elle en pense quoi, votre femme?
De quoi?
De tout ça. Le chantier, architecte, votre démission.
Je sais pas, on est séparés. Et vous, alors, vice-présidente de Global Human Resources, ça consiste en quoi?
Ça consiste à s'occuper de la politique des ressources humaines du groupe. Concrètement, ça veut dire que j'essaye de mettre la bonne personne au bon poste. Puis je fais en sorte que cette personne se sente bien dans ce poste, qu'elle n'ait pas envie d'aller voir ailleurs. Et si ça arrive malgré tout, je lui propose un autre poste avec plus de responsabilités, plus d'argent. J'imagine que c'est ce que va vous proposer votre patron demain, s'il a vraiment besoin de vous. Plus de responsabilités, plus d'argent.
Vous croyez ?
Victoria va confronter David à ses contradictions, à ses renoncements passés. Oui, il est galvanisé par l'intérêt qu'elle lui porte. Comment vous voulez te raconter cette femme, Jeanne Balibar?
J'ai adoré la détester, mais j'ai vraiment adoré la détester. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, en écoutant, là, j'ai repensé, j'ai eu une jouissance quasiment à travailler avec Sylvain Desclous, parce qu'il m'a rendu beaucoup plus concrète que je ne le suis spontanément, et il m'a donné accès à la capacité que j'ai aussi d'être concrète, mais que souvent je laisse un peu se vaporer comme ça, et j'ai beaucoup aimé travailler sur ce côté matter of fact, retour au réel, retour à la dégueulasserie du réel, parce que tous les discours qu'elle tient, je les trouve non seulement répréhensibles, mais laids. C'est-à-dire que, vous voyez, on entend, c'est très très bien écrit, c'est une langue, la langue qu'elle parle, qui n'a absolument aucun lyrisme, et même aucune signification, c'est des espèces d'expressions les unes derrière les autres. Des formules, plus de responsabilité, plus d'argent. Je hais ça, j'ai ça en abomination. Et c'est là, partout, ça rampe dans la société à plein de niveaux, donc c'est très important de le représenter. J'ai pris un pied phénoménal à haïr cette bonne femme.
Vous l'avez pas trop, en même temps, vous ne l'avez pas trop chargée.
Ah, mais j'ai fait exprès.
Mais oui, et vous l'avez même rendue oui, attachante.
Bien sûr, oui, bien pour sûr. La rendre plus dangereuse encore.
Et mystérieuse.
Oui, 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 mais vous savez, je suis une petite finaude.
Vous en avez rencontré des RH ?
Oh bah oui, on en rencontre tout le temps des DRH, parfois déguisés en d'autres métiers.
À savoir ?
Responsable de programme de financement dans le cinéma.
Ouais. Vous avez l'air de vous y connaître par rapport à la fête, au fait que vous avez réalisé un film, ça vous a...
Oh bah non, je m'y connais pas beaucoup, j'ai réalisé
un film. Non mais vous avez été confronté à ça, du coup.
Oh là là.
Qui d'autre pour l'incarner, disais-je, Sylvain Descloux. Alors elle dit, ceux qui me choisissent, elle, ma voisine Jeanne Balibar, ceux qui me choisissent, le savent probablement mieux que moi. Donc, pourquoi elle ?
Bah parce qu'il y avait personne d'autre capable de se glisser avec autant de facilité, à mon sens, dans ce costume de DRH, de jouer la fonction, d'incarner cette femme puissante en totale maîtrise, et en même temps de décaler d'un gros pas le rôle et de la rendre, comme tu viens de dire très justement,
charmante,
attachante, attachante, non pas parce qu'on doit l'aimer, mais attachante cinématographiquement. Moi, j'ai toujours, enfin, les rôles de méchants au cinéma, enfin, c'est toujours sur une ligne de crête, parce que s'ils sont trop méchants, tout d'un coup, ça perd de sa force, de sa puissance. Et moi, j'aime bien au contraire quand on va trouver quelque chose de très humain là-dedans, qui fait que voilà, on a accès à ce qu'il y a à l'intérieur. Et je trouve que Jeanne, ouais. Permettez ça de voir la DRH.
Moi, j'ai une théorie hein, sur les grands méchants de cinéma.
C'est quoi ? C'est quoi ?
Seuls les acteurs et actrices très gentils et gentilles peuvent les jouer. Parce que ce sont les seuls qui n'ont pas peur d'être démasqués.
Pas mal, pas mal.
Ouais. Ah là 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 là. Et inversement, pour revenir sur la cérémonie d'hier soir, hein, je ne suis pas sûre que les acteurs qui savent jouer les personnages gentils n'est pas en eux un grand fond de retorserie. Parce que vous avez dit éloge de la gentillesse en remettant le César à Karim Leclou. Mmh. Mais je ne suis pas sûre que ce soit un éloge de la gentillesse parce que c'est tellement difficile de jouer un gentil. Mmh. C'est ça qui est extraordinaire ouais. dans ce qu'il a fait.
Ouais.
Et moi, sur la cérémonie d'hier, j'ai été... on peut dire tout ce qu'on veut dans tous les sens, mais les acteurs, les quatre acteurs récompensés sont ouais. quatre très, très, très merveilleux
ouais,
acteurs.
Oui, ça c'est vrai.
Merveilleux, et ça est très complexe, et très profond, et très subtil, et très divers, et très ouais. étrange. Et ce que j'ai trouvé vraiment très beau dans le fait que la performance de Karim Leclou soit récompensée, c'est que ce qu'il fait dans ce film, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Pour que ce soit pas tartouille.
Voilà. Le personnage de Victoria, il est presque aussi métaphorique, quoi. Elle incarne un peu le stade terminal du capitalisme, non ?
Bah oui,
terminal, alors, on aimerait bien.
J'ai peur qu'on n'y soit pas encore.
Oui, hein, non, non, non.
Mais oui, elle jouit sans entrave. Et c'est vrai que, alors quand Eric il a découvert le film, le premier mot qui lui est venu, c'est le mot fable. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose. C'est vrai que dans la manière dont Victoria évolue, un petit peu hors sol, coupée de beaucoup de vicissitudes, elle fait ce qu'elle veut. Elle s'est construite à l'intérieur du système, un endroit où elle fait ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle veut, elle rencontre qui elle veut. Et voilà, je la trouve assez, assez fascinante pour ça.
Mais ce qui n'est pas clair, et ça c'est assez intéressant, ce sont ses rapports avec la mafia. Parce qu'il y a un côté thriller dans ce film.
On ne va pas trop y entrer.
Non, on n'y entre pas, mais je voudrais dire que... On s'interroge sur ses rapports.
Bien sûr.
Avec cet aspect mafieux des choses.
Ouais.
Et en ce moment, on s'interroge beaucoup sur les rapports du système capitaliste avec les pratiques mafieuses, comme on a pu le voir hier soir. Ce film est d'actualité, c'est ça que je veux dire.
Ben oui, on avait un petit peu compris. Donc il y a deux visions dans ce film à travers les deux personnages qui se retrouvent dans une chambre d'hôtel. Un échange qui dit beaucoup.
Mais c'est drôle ce que tu me dis, parce que moi, bah, juste avant que tu m'appelles cet après-midi, j'ai eu une réunion de chantier, enfin qui était plus une réunion de crise, suite à laquelle je me suis engagé à rattraper un retard, que je sais que non seulement il sera irrattrapable, mais en plus il va s'aggraver.
Ça a un rapport avec ce que je disais avant ?
Ah oui, ça a complètement un rapport. Puisque vous les puissants, vous avez compris une chose absolument géniale.
Vous les puissants ? Ça commence bien.
Bah oui. Vous fixez des objectifs démesurés en sachant très bien qu'il y aura toujours un pauvre type pour essayer de les rattraper. Et que dans la plupart des cas, bah, il fera tout pour les atteindre. Hein. Mais bon, ce sera au prix de sa santé, son sommeil, sa famille, sa vie perso.
Et le pauvre type, c'est toi ? Vous êtes con aussi d'accepter des trucs pareils, vous les pas puissants. Moi, je crois que ça vous excite, en fait. Comme ça, vous réalisez l'impossible, vous devenez héroïque.
Assez rare, un beau dialogue comme ça entre deux amants dans une chambre d'hôtel. C'est un vrai débat de société, ça.
Bah, je trouve que c'est une phrase donc, qui est tirée du livre d'Éric, hein, qui résume énormément de choses, et notamment la manière dont le monde et le monde du travail fonctionnent, et qu'on pourrait résumer par ça. C'est pas parce qu'un objectif est inatteignable ou irréaliste qu'on doit renoncer à l'imposer. Et je trouve que... Enfin, moi, au moment où je lis ça, je le constate dans mon travail quotidien, de voir à quel point dans le fonctionnement des entreprises, s'il y a quelque chose qui ruisselle, c'est pas l'argent, c'est plutôt le stress. Voilà. Et il y a toujours quelqu'un en bout de course, en bout de chaîne, très tard la nuit, qui va achever le boulot, le rendre en temps et en heure, juste par dévotion et par amour du travail bien fait. Voilà. Et le livre a compté ça parfaitement, et j'essaie d'être à la hauteur de ça.
Qu'est-ce qu'elle lui trouve, finalement, à cet homme? Parce qu'elle, femme puissante, belle, intelligente, et tout d'un coup, qui rencontre, non mais c'est un peu le sujet, hein, qui rencontre cet architecte, je le disais, déclassé, pas sûr de lui, pressé, enfin, qui se fait avoir, elle veut être son Pygmalion, c'est quoi l'idée?
Oh, je crois que ce qu'elle aime, c'est sa peau.
Ouais.
C'est pas mal déjà.
Moi, c'est comme ça que je comprends ça, ouais. Parce que, alors, sauf s'il y a des ficelles d'ordre de thriller qu'on va pas dévoiler, qui explique son intérêt pour lui, mais même ça, je pense que comme elle vit dans l'illusion de la liberté, je pense que c'est une illusion, parce que je pense que elle serait elle-même le jouet de gens plus puissants, il y a plus puissants qu'elle. Donc, dans un système comme celui-là, personne n'est réellement libre et tout puissant. Mais elle s'emmerderait pas à coucher avec un mec dont la peau ne lui plairait pas. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus chiant dans l'existence que de faire l'amour avec quelqu'un dont la peau ne vous plaît pas?
Ah bah, il n'y a rien de pire.
Il n'y a rien de pire. Donc, ouais, moi, je pense que ce qui fait qu'elle va dans la chambre d'hôtel, etc., c'est que même si au début, il a une petite panne, etc., c'est pas grave. Parce que ce qui est intéressant, c'est comment les deux peaux se caressent, etc. Ce qui est une activité importante et intéressante dans la vie.
D'ailleurs, le film aurait pu être plus charnel, hein, parce que le livre l'est beaucoup plus.
Oui, le livre l'est beaucoup plus. Il y a beaucoup de scènes de sexe, beaucoup plus frontales, beaucoup plus longues. Et le sexe, c'est vraiment dans le livre, plus que dans le film, vraiment le cœur et le noyau et le ciment, si on regarde les mots de l'architecture de la relation. Et moi, j'avais un tout petit peu envie de m'en détacher. Et pour autant, il fallait quand même que cette histoire d'amour, cette rencontre, elle existe. Donc on a décidé, voilà, de faire une seule et belle et longue scène d'amour, qui est la première, qu'on a mis beaucoup de temps à travailler et à filmer. Et
donc,
je suis très heureux.
Pourquoi beaucoup de temps?
Mais parce que je voulais qu'elle soit réussie, je voulais qu'elle ressemble à quelque chose qu'on n'avait pas vu, et que ça, c'est du travail, de découpage, de discussion avec Damien, avec Jeanne, pour leur dire exactement ce qu'on voulait faire.
Et puis on avait la coque, donc on était très libre.
C'est quoi la coque ?
La coque, c'est un outil que Damien Bonnard a inventé. Moi, je lui dis qu'il faut qu'il le fasse breveter.
Oui.
C'est une coque plastique qui se met sur le sexe pendant qu'on tourne les scènes.
Ça existe déjà, ça ?
Non, c'est lui qui l'a inventé.
Mais non.
Ah bah, il m'a fait croire qu'il l'avait inventé. Une grosse coque plastique, comme ça, on est hyper tranquille. Et on peut se concentrer sur la dramaturgie de l'acte sexuel, qui est une des choses les plus passionnantes du monde et pas assez explorée. Et c'est une des choses que j'aime beaucoup dans cette grande scène d'amour, c'est que elle s'intéresse, et pas dans le domaine, et c'est pas de l'ordre de la pornographie, c'est-à-dire c'est pas de l'ordre d'une mise en scène avec une dramaturgie qui va de fétiche en fétiche, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe quand on est en train de coucher ensemble. Il peut vous passer plein de choses très différentes par la tête. Tout d'un coup, on est énervé par l'autre. Tout d'un coup, on se radoucit. Tout d'un coup, on se laisse faire. Tout d'un coup, on prend le dessus. Tout d'un coup, on dit « Oh, j'en ai marre de cette position ». Il y a toute une dramaturgie et c'est ça qu'on a pu filmer dans cette longue scène. Et je suis très fière de ça parce que toute ma vie, mais depuis que j'ai 18 ans, j'ai fait l'amour pour la première fois de ma vie à 19 ans, donc je me vante 18, c'est pas vrai. Je me suis dit, mais c'est passionnant ce truc-là, faudrait le filmer.
Vous aimez bien les scènes de sexe au cinéma ?
Bah, ça dépend comment elles sont, c'est comme tout. Ouais. Oui, c'est comme tout, il faut en avoir un avis là-dessus. Hein.
Et le romanesque dans tout ça, Sylvain Desclos ?
Dans le film, moi qui suis un peu, voire carrément romantique, un peu fleur bleue, je persiste à penser qu'il y a bien plus que cette histoire de peau dans le regard que Victoria porte sur David. Il y a
mais
aussi.
La peau, c'est tellement romantique, Sylvain.
Oui.
Laissons pas.
Et il y a aussi le fait qu'elle est extrêmement touchée par cet homme-là, qui est un petit peu à côté de ses pompes, qui est vulnérable, qui est extrêmement talentueux et qui n'a jamais réussi à exprimer ce qu'il était. Et elle voit ça, parce qu'elle voit tout et qu'elle est DRH, c'est son métier, mais elle est super intelligente et elle voit ça. Et puis lui, on ne l'a jamais regardé comme ça, on ne lui a jamais parlé comme ça, on ne lui a jamais dit qu'il pouvait le faire et que s'il le faisait, il serait enfin celui qu'il rêve d'être. Et voilà, je pense que c'est par là que s'infiltre le romanesque dans le film et que moi, peut-être c'est une histoire de manipulation, mais pour moi c'est surtout une histoire d'amour.
Mais moi je suis complètement d'accord avec ça, mais je pense que tout ce que tu viens de dire là, ça s'exprime dans le contact des peaux entre les gens. Avec les gens avec qui il n'y a pas ça, les peaux, elles ne se rencontrent pas. C'est une théorie que j'ai, mais on n'a pas le temps de la développer.
C'est grâce à la peau de Jeanne Balibarque qui va devenir finalement l'exploiteur. C'est vrai qu'il va devenir le bourreau, presque.
Les yeux, c'est le regard qu'elle porte sur lui.
Exactement.
Je pense que c'est la première fois que quelqu'un croit en lui très fort.
Oui.
Et il va sortir de lui-même, il va se transformer même physiquement, on le voit, il se tient droit, il porte la voix, il commence à se comporter pour le meilleur et pour le pire en manager et il va réaliser effectivement l'impossible, comme quoi elle avait raison de le pousser. Quoi.
C'est votre deuxième grande héroïne. D'ailleurs, j'ai remarqué dans votre générique, là, il y a beaucoup de femmes à des postes importants dans votre film, Sylvain Desclous, à l'image, au montage, à la musique, à la régie, au décor.
Et au casting. Ouais. Je crois que pour ce film, encore plus que pour les autres, j'avais l'intuition que j'avais besoin d'être très entouré par une équipe de femmes et de jeunes femmes. Et que ça allait peut-être un peu modifier ma manière de raconter et surtout ma manière de filmer. J'ai pas la preuve à contrario, mais j'ai la conviction que si je l'avais fait tout seul ou si je m'étais entouré d'une équipe beaucoup plus masculine, le film aurait eu une gueule vraiment différente. Voilà, il aurait été peut-être plus, on va dire, massif, mastoc, peut-être même brutaliste.
Ça s'appelle Le Système Victoria avec Jeanne Balibar et Damien Bonnard, entre autres.
C'est un très beau film, allez le voir.
Et il sort mercredi prochain. Et nous, on va parler des sorties de cette semaine, mais en attendant, on écoute la musique du grand gagnant d'hier, Adriana Paz, Las Damas que pasan.
Dedico este poema a la que fuera tan amada durante fugaces instantes. A la mujer de mis noches, a la que se iba sin nunca hablarme de ella. ¿A quién le dio de mis fuentes y cuyo misterio me falta como una estrella?
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Et si on commençait par ce film à bicyclette de Mathias Mécuze? De La Rochelle à Istanbul, Mathias embarque son meilleur ami Philippe Rebaud, dans un road trip à bicyclette. Ensemble, ils vont refaire le voyage que Yuri, son fils, avait entrepris. Avant de se suicider, road movie, buddy movie, improvisé, spontané, sincère, là où il aurait pu paraître indécent, il la frise parfois, cette indécence, comme lorsque le réal se filme en train de pleurer dans une église. On aurait espéré une caméra plus lointaine, ou pas de caméra du tout pour filmer ce moment. Reste l'humour imparable de Philippe Rebaud qui sauve souvent l'entreprise, Laurent.
Oui, enfin, il y a quand même une première imposture. Ils ne sont pas allés de La Rochelle à la Turquie en vélo, bien évidemment, parce qu'à force de faire du vélo en cravate et en costume, comme le fait Rebaud,
on sait bien.
Oui, 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 mais non, justement, ce qui était intéressant, c'était de le faire. Or, ils ne le font pas. Déjà, ça, c'est embêtant quand on a fait une promesse comme ça, y compris un fils mort. Bon, ils ne le font pas. Et ben, moi, le reste est un peu à l'avenant, c'est-à-dire un protocole compassionnel assez roublard. On s'attendrit beaucoup, on pleure, on philosophe un peu, on s'engueule, on boit des coups, on fume, et ainsi de suite jusqu'à la fin du voyage où l'intensité lacrymale, évidemment, est à son comble. Et ben, ce que l'on sent le plus, ce que moi j'ai senti le plus, c'est évidemment le hors-champ, c'est-à-dire l'équipe qui filme en permanence. Ces deux-là dont on nous dit qu'ils sont en train de faire un vrai faux documentaire. C'est bien dommage.
Ouais, moi j'aime bien la démarche sincère. Bref, La vie devant moi de Niels Taverny en 1942. Toba, une adolescente pleine d'énergie, échappe de justesse avec ses parents à la rafle du Veldiv. Un couple d'Inanceaux leur propose de les cacher provisoirement dans un minuscule débarras de leur immeuble. Le film est né d'un témoignage filmé en 97 par la fondation de Steven Spielberg, un huis clos oppressant, anxiogène, une fiction dans laquelle le réalisateur a inséré des images d'archives tout au long du film.
Oui, alors c'est la vraie histoire de la mère du journaliste Guy Birenbaum, qui l'avait raconté dans un livre, et puis ça fait un film. L'histoire, ou plus précisément les histoires, parce qu'il y a celle que vous venez de dire, mais il y a aussi celle du couple de gens qui ont hébergé et qui ont, à l'égard de leur propre fils, eu un comportement incroyable, absolument sidérant, je n'en dirai pas plus. Tout ça fait qu'on est fasciné par cette histoire, parce que c'est trois personnes qui ont vécu dans 10 mètres carrés pendant 2 ans, dans une chambre de bonne parisienne. C'est un scénario incroyable qu'aucun scénariste n'aurait imaginé. Manque peut-être, hélas, la réalisation. C'est-à-dire qu'on se dit qu'un Lozay, par exemple, ou un Polanski, on aurait fait quelque chose de peut-être plus important cinématographiquement. Alors, le fond est là, la forme, elle, n'y est pas, hélas.
Yokai, le monde des esprits, du réalisateur singapourien Eric Koo. Claire, c'est Catherine Deneuve, une célèbre chanteuse s'envole au Japon pour un dernier concert à guichet fermé. Lorsque le concert prend fin, sa vie sur Terre s'arrête aussi. Une nouvelle vie inattendue s'offre à elle et au-delà, dans lequel Yuzo, l'un de ses plus grands fans, l'attend. Les yokai désignent des créatures surnaturelles dans la culture japonaise, qu'on pourrait traduire par spectre ou apparition étrange. Heureusement, il y a Deneuve qui réveille ce film un peu atone.
Ah, moi je trouve qu'elle irradie dans ce film, ça c'est sûr, mais que le film est à sa hauteur. Alors Claire Emery, elle chante de très très belles chansons écrites pour l'occasion et pour Deneuve par Jeanne Chéral, il faut le dire, parce que ça, c'est aussi un des atouts du film. Et puis moi j'ai beaucoup aimé ce film de fantôme, tranquille, apaisé, qui cherche en permanence à nous réconcilier avec le deuil. Ça c'est très très beau, parce que cette réconciliation, c'est le maître mot du film, où les langues étrangères se croisent, où la fiction et la réalité se mélange. Et au bout de la réconciliation, ben, y a peut-être la consolation. Et ce message-là, cette façon d'envisager le monde, très oriental, je trouve que Eric Koo, avec son interprète principal, y réussit parfaitement.
A Real Pain, deuxième film de l'acteur Jesse Eisenberg. Deux cousins au caractère diamétralement opposé, c'est le moins qu'on puisse dire, David et Benji, se retrouvent à l'occasion d'un voyage en Pologne afin d'honorer la mémoire de leur grand-mère rescapée de la Shoah et qui vient de mourir. C'est une comédie dépressive. Vous comment traiter de la résilience du peuple juif avec humour et émotion, toujours sur le fil, cette façon si subtile d'associer angoisse contemporaine et trauma du passé.
Oui, alors je trouve que le film réussit pas toujours quand même ça, avec un esprit Woody Allenien, tendance juif new-yorkais, il y a des choses réussies. Mais peut-être que l'interrogation principale qu'il a, celle-là il la tient, c'est-à-dire le dialogue entre des juifs américains et des juifs d'Europe. C'est-à-dire un dialogue entre ceux qui ont vécu quelque chose et ceux qui ne l'ont décidément pas vécu, et le rapport qu'ils entretiennent. Ça, je crois que c'est le cœur intime du film, et que de ce point de vue-là, il est extrêmement touchant.
Et d'ajouter un rescapé du Rwanda, je trouve ça assez malin comme démarche, en plus. Queer, de Luca Guadagnino. Alors, dans le Mexico des années 50, Lee, un Américain, mène une vie désabusée au sein d'une communauté d'expatriés. L'arrivée du jeune Allerton va bouleverser l'existence de Lee, qui fait renaître en lui des sentiments oubliés. Adapté du roman de William Burroughs, Lee, c'est un peu son double littéraire. Le film est en deux parties, la rencontre d'abord, et puis le voyage en Amérique du Sud. Pour retrouver cette drogue outil télépathique, les amateurs de bureau risquent d'être déçus. C'est moins cru, c'est plus toc avec beaucoup de filtres, un peu de Fassbinder dans les coins, beaucoup de désir. Ça, on ne peut pas lui retirer. À ce metteur en scène, il sait filmer le désir. Non, le plus dingue dans l'histoire, c'est Daniel Craig. Ivre, désirant, transpirant, héroïnomane, Craig. Et ce film, le passeport d'émancipation de James Bond. C'est ça qui est le plus fou, en fait.
Oui, oui. Alors, c'est effectivement adapté d'un très court roman autobiographique de Burroughs, qui est réédité d'ailleurs aux éditions Christian Bourgois. On peut le lire, parce qu'on peut nettement préférer le livre au film, qui est décomposé en plusieurs parties qui ne se correspondent guère, qui ne se parlent guère. Mais effectivement, il y a au centre un Daniel Craig un peu déguisé en Jacques Audiard, qui est la surprise du film, c'est-à-dire une sorte de déconstruction de James Bond, et vieillissant, homo, usé, et finalement sympathique. C'est Anti-007.
Oui, je ne me remets pas. Bonjour l'asile, deuxième film de Judith Davis. Jeanne quitte quelques jours le stress de la vie urbaine pour aller voir sa grande sœur, sa grande amie, pardon, Elisa, récemment installée à la campagne au cœur des bois voisins, un château abandonné, devenu tiers-lieu, foisonne d'initiatives collectives. La force du collectif entre idéaux et réalité sociale. Là.
Oui, alors je trouve qu'après le très surestimé, tout ce qu'il reste de la Révolution, ben, c'est en quelque sorte sa suite, son actualisation, avec des thématiques, oui, très actuelles et foisonnantes, les tiers-lieux, la charge mentale, l'environnement, l'écologie, la crise économique, beaucoup, beaucoup d'autres choses actuelles. Le scénario se dilue absolument dans ces différentes thématiques, et les personnages, curieusement, manque d'épaisseur, alors qu'il devrait en avoir beaucoup plus, si on en croit ce que veut nous dire la réalisatrice. Elle parle beaucoup d'utopie. Peut-être que l'utopie principale, ce serait d'avoir un film un peu plus tenu.
Un doc, un gros doc, l'énigme Velázquez. Comment cet artiste, admiré par des génies tels que Manet et Dali, demeure-t-il si souvent en marge de la mémoire collective ? Non, l'intéressant dans l'histoire, c'est les témoignages des peintres contemporains. D'abord, ça commence avec l'extrait de Belmondo dans Pierre Oulfou qui parle de Velázquez dans la baignoire. Très belle idée. Ensuite, des témoignages de Bacon, de Picasso, de Michel Foucault et de Marcel Duchamp. Ça fait un peu quand même film de musée, Laurent.
Ben, je ne résiste pas justement au plaisir de vous citer Jean-Paul Belmondo dans la baignoire de Pierre Oulfou, pardon, je mélangeais les films. Et il dit ceci qui est du Elifor, hein, le grand critique d'art. Velázquez, après 50 ans, ne peignait plus jamais une chose définie. Il errait autour des objets avec l'air et le crépuscule. Il surprenait dans l'ombre et la transparence des fonds les palpitations colorées dont il faisait le centre invisible de sa symphonie silencieuse. Merveille absolue de déclaration, évidemment, dans Pierre Oulfou. Cette séquence introductive, elle est à la hauteur de ce que Velázquez est effectivement dans l'histoire de la peinture,
un peintre,
mais ainsi aussi un cinéaste hors norme, et le documentaire lui rend évidemment...
Ah, il y a un passage sur le Innocent X, sa peinture du pape Innocent X, où le pape lui a dit « trop vrai, trop vrai, trop vrai ». Il est magnifique ce passage. Maman des chiens, on en a parlé largement la semaine dernière avec sa réalisatrice, Émilie Brisavoine, un récit intime sur les grandes blessures d'une enfance, un film pour comprendre, réparer, peut-être pardonner à travers tous les moyens du bord, VHS, journaux intimes, Skype, vidéo, YouTube, un voyage, une odyssée cathartique. Chronos, un film de Guillermo del Toro qu'on n'avait jamais vu sur le grand écran.
Curieusement, il était sorti à Cannes, il avait été présenté à la Cannes à la semaine de la critique, il avait même reçu un prix et on ne l'a jamais vu. Alors, curieusement, bon, après tout, on se dit que c'est quand même pas le meilleur de ce cinéaste, c'est nettement en dessous, par exemple, du Labyrinthe de Pan, et qu'il soit resté dans les placards, on se dit que c'est, finalement, on n'a pas loupé grand-chose. On a l'impression, enfin moi, j'ai eu l'impression de voir un gros roman, vous savez, étouffant et un peu bancal, de Umberto Eco, avec l'alchimiste fou et l'ésotérisme de Bazar.
Très vite, Duvivier, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps après.
On pourrait parler très très lentement de Pépé le Moko, Poil de Carotte, La Tête d'un Homme, David Golder, Les Cinq Gentlemen Maudits. Il faut toujours redécouvrir ou découvrir Julien Duvivier, qui est un des grands cinéastes français pas assez connus.
Vision nordique au Grand Action.
Oui, du 5 au 9 mars à Paris au Grand Action. Suède, Norvège, Islande, Finlande et Danemark, avec notamment 12 films en avant-première. Et puis les cinéastes Tarek Salé et Ruo Kousmanen, qui seront également présents. Et puis vous irez dans toute la France, dans 60 salles, voir des documentaires Best of Doc du 5 au 18 mars de Paris au Vigan, avec trois avant-premières aussi, dont celle du magnifique Tardes des Soledades d'Albert Serra.
Ça fera, on va déborder. Le prix Alice Guy a été remis à Bye Bye Tibériade de Lina Swalem. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et sinon, les cadeaux, vite.
Les cadeaux pour Jeanne Balibar, L'Innocent de Visconti chez Studio Canal, Studio Canal, avec Laurent Antonelli, dernière adaptation.
Studio Canal
Dernier film de Visconti, adapté de D'Annunzio. C'est beau comme un requiem, c'est absolument formidable. Il y a des beaux bonus, c'est donc chez Studio Canal.
Et je pense qu'il va être content, Sylvain.
Et puis pour vous, cadeau. Sylvain Desclous, Miséricorde, d'Alain Guiraudy, le grand absent de la cérémonie des Césars d'hier. Alors voilà, c'est une façon de se rattraper. C'est édité par Blackout, avec là aussi de beaux bonus, et c'est un polar rural et burlesque absolument réussi.
Merci Sylvain Desclous, merci Jeanne Balibar pour ce
merci
film. Le Système Victor X sort mercredi prochain. Merci à notre équipe, Valérie Ayestaraï à la réalisation, Louise Tempéro à la préparation et Thierry Dupin à la programmation musicale. Au revoir.
Merci, salut.